une histoire qui parte d'une question, une histoire qui tutoie le passé, une histoire qui questionne les documents.
Le temps de l'histoire, le temps des hommes, le temps de la vie sociale, c'est un temps multiple.
C'est à partir de cette étude des structures sociales de la société d'Ancien Régime que je suis, si je puis dire, entré en révolution.
20 minutes d'histoire.
Aujourd'hui, pour ce numéro consacré à la guerre d'Algérie, nous recevons Raphaël Branche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à Paris 1 et membre de l'Institut universitaire de France. Votre thèse sur la torture durant la guerre d'Algérie constituait le premier travail universitaire sur le sujet. Et vous avez publié récemment, en 2010, chez Armand Collin, un ouvrage intitulé « L'embuscade de Palestro, Algérie 1956 ». Donc je laisse la parole maintenant à Caroline pour commencer avec les questions.
Alors bonjour à tous, bonjour à vous Raphaël Branche. Alors ce que nous aimerions faire avec Thibaut aujourd'hui, c'est un entretien en deux parties. Une première partie destinée plutôt à nos auditeurs, au cours de laquelle vous reviendriez sur les grandes étapes du conflit. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on essaiera d'aborder le conflit sous un angle plus thématique, avec donc notamment une réflexion autour de la violence et de la torture pendant cette guerre. Alors, pour commencer, sur la nature du conflit, on parle souvent d'une guerre d'Algérie, en tout cas c'est l'expression qui est aujourd'hui consacrée. Est-ce que ça a vraiment été le cas, tout d'abord? Et puis ensuite, j'aimerais également savoir quand est-ce que tout cela a commencé, puisque on a deux événements qui ont marqué la mémoire, Sétif et les massacres en 1945, juste après la guerre, ou la Toussaint Rouge et les attentats du 1er novembre 1954. Alors il y a quand même 10 ans qui séparent ces deux événements. Alors à quel moment cette guerre, si c'en est une, commence-t-elle?
Alors pour reprendre votre première remarque, guerre d'Algérie, en fait on dit guerre d'Algérie et c'est admis en France. Mais en Algérie on ne dit pas comme ça. En Algérie on dit révolution, on dit guerre de libération, on dit guerre d'indépendance, guerre de libération surtout. Donc en fait, voilà, il faut déjà se souvenir qu'une guerre ça oppose deux parties et le fait même que les deux parties ne soient pas d'accord sur la manière de la nommer, ça a du sens. Ils n'ont jamais été d'accord depuis les événements jusqu'à aujourd'hui. Et de même, sans doute que les deux parties ne seraient pas d'accord sur les dates de début ou de fin. Alors, est-ce que les historiens peuvent mettre d'accord les parties? Je ne pense pas. Mais en même temps, voilà, on peut essayer de dire des choses. Ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que la guerre qui a lieu en Algérie à partir de 1954, et il s'agit bien d'une guerre dans le sens où une armée est mobilisée de chaque côté, et ça c'est nouveau en 1954, à partir de fin 1954 c'est nouveau. Donc les spécificités qui plaideraient pour 54, ça serait du côté du militaire, et puis du fait que cette guerre va opposer ou oppose les autorités françaises d'un côté, la puissance publique, et puis un petit groupe de gens qui s'appelle le Front de Libération Nationale et qui naissent fin 1954. Donc ces acteurs-là, ils n'existent pas avant. Après, si on s'intéresse à la genèse du FLN, on remonte à l'histoire du nationalisme algérien et on remonte à bien avant en réalité. Ce que le FLN ne fait pas en Algérie, alors c'est compliqué parce qu'il se trouve que ce sont des historiens qui rappellent que le FLN n'est pas né en octobre, en novembre 1954, mais le FLN est né d'un mouvement nationaliste antérieur, dont on oublie l'origine en Algérie, mais qui a existé, et qui est le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, anciennement parti du peuple algérien, anciennement étoile nord-africaine. Et ce parti a été celui qui a notamment promu l'idée de lutte armée dès les années 1945, 46, 47, surtout, 48 surtout. Donc on pourrait voir les germes de la guerre à ce moment-là. La date que vous évoquez, 1945, c'est encore autre chose. C'est la répression d'une manifestation le 8 mai 1945, le jour de la victoire contre le nazisme, où des nationalistes algériens vont réclamer la libération de Messali Hadj, qui était le chef du grand parti nationaliste algérien. Et ces manifestants vont être tués. non seulement le jour même, mais dans les 2 mois qui suivent, un système de milices populaires va se mettre en place. Les forces de l'ordre vont les aider à certains endroits de l'est de l'Algérie et vont tuer des milliers de gens avant que les autorités françaises ne mettent le holà à tout ça. Donc on a là, on dit souvent qu'on aurait là un premier début de la guerre parce qu'on a là un massacre de population civile par des forces de l'ordre françaises ou disons des Européens armés, et qu'une chose pareille, ça fait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu en Algérie. Donc là, ça signale qu'on bascule dans une violence. Mais en réalité, on n'y bascule pas parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, pendant 10 ans, il ne se passe rien en termes de violence. Donc c'est compliqué de dater le début de la guerre. Donc voilà, je vais m'arrêter là.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure du FLN algérien et de sa naissance en 1954. Alors, on connaît bien par la suite le rôle qu'a joué le FLN, notamment d'interlocuteur avec De Gaulle lors des négociations autour de 1962. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment se construit cette force qui va justement mener l'opposition ? Qui sont les hommes qui, en 54, font naître le FLN ? Qui sont ces hommes qui font le choix d'une lutte armée ? Donc voilà, par rapport justement au mouvement plus antérieur que vous évoquiez, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui aboutit au FLN ?
Pour aller très vite, il faut se rappeler que le FLN, c'est donc un parti révolutionnaire qui se dote d'une branche armée. En réalité, déjà auparavant, dès les années 47-48, il y avait déjà dans la structure du mouvement nationaliste cette double structuration, une branche politique, une branche armée. On a ça aussi au sein du FLN, et donc on a des gens qui sont parfois eux-mêmes des politiques et des militaires. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, parce que là, c'est une structure qui est assez différente de la structure française en face. Dans le cas de l'armée algérienne, de l'armée du maquis algérien, les militaires se pensent comme des politiques avant tout. Ils font la révolution. Après, il y a des gens qui ont des compétences plus politiques et d'autres qui ont des compétences plus militaires. Ceux qui lancent les opérations, les attentats du 1er novembre 1954 ont pour certains des compétences plus politiques, pour d'autres des compétences plus militaires. Donc ils se retrouvent un petit groupe très motivé et progressivement ils vont rallier à leur cause, c'est-à-dire à leur interprétation de la situation. Et leur interprétation, c'est il faut prendre l'indépendance par les armes. Ils vont rallier à leur cause les gens qui étaient militants nationalistes, mais qui n'étaient pas partisans de cette lutte violente. Donc en fait, ils sont à la fois nés le 1er novembre 1954, et en même temps, ils existent déjà, et leur travail va pas être un travail de conviction, au sens où on passe de gens qui ne pensent rien à des gens qui soutiennent le FLN, on passe de gens qui soutenaient le MTLD à des gens qui soutiennent le FLN. Dans un premier temps. Donc le réseau du FLN va s'étendre comme ça par un travail de conviction et puis un travail effectivement de ralliement plus large d'une population qui était peut-être sympathisante, était peut-être intéressée par, mais n'était certainement pas militante, n'était certainement pas engagée dans la lutte. Mais le contexte même de la lutte et le durcissement des oppositions avec la France va aussi précipiter les gens, quand je dis les gens, c'est les civils algériens et particulièrement les paysans, dans une situation où ils vont difficilement avoir le choix, en fait. Donc soit ils se mettent vraiment ils se mettent à l'abri de la protection française, soit ils soutiennent le FLN. Très rapidement, la puissance du FLN va faire que ça va être très difficile d'avoir une position de neutralité. Et donc on peut dire à partir de 1956 que le FLN a progressivement gagné à sa cause la plupart des Algériens en Algérie. C'est pas le cas en métropole. C'est pas le cas en métropole où les partisans de Mess Ali Hadj, le parti d'avant, restent très puissants, restent très forts. Et il faudra une lutte interne extrêmement violente entre le FLN et ce nouveau parti que Mess Ali a fondé, qui s'appelle le Mouvement National Algérien, le MNA. Il faudra une guerre fratricide extrêmement violente qui fera plusieurs milliers de morts sur le sol métropolitain pour que le FLN l'emporte. Mais on a des gens du MNA qui sont encore là en 1961 et qui se battent et qui assassinent des gens du FLN et réciproquement, en particulier dans le nord de la France. En Algérie, ça va beaucoup plus vite. Le MTLD disparaît en fait assez rapidement et le FLN, globalement, et si on va aller vite, globalement l'emporte en 1956 en ralliant à sa cause. Non seulement les messalistes, mais aussi les communistes algériens, mais aussi les membres des oulémas, en fait tous les partis, toutes les associations qui ont pu exprimer quelque chose autour d'une idée nationale et qui vont être obligés de se rallier au FLN, puisque c'était la condition que le FLN a mise. Pas de front des partis, mais un ralliement individuel des individus au FLN, unique front. Donc ça, c'est 1956, et on s'enfonce dans la guerre à ce moment-là, c'est-à-dire que l'ensemble du territoire va progressivement être touché par des opérations militaires, et la France va mobiliser son contingent. qu'à partir de là, l'échelle change complètement. C'est des centaines de milliers de soldats français qui arrivent en Algérie. C'est un quadrillage de l'ensemble du territoire qui est mis en place. Ça veut dire quoi, quadrillage? Ça veut dire que tout le monde... L'idée, c'est que l'ensemble du territoire n'ignore plus la présence militaire française. Donc on va mettre des soldats à peu près partout. Alors pas très nombreux, parce que le territoire algérien, c'est très grand. Mais quand même à peu près partout pour rendre visible la présence française. Les stratégies françaises ont évolué au cours de la guerre, mais ça, c'est le premier temps. C'est vraiment rendre visible et quadriller. Et puis ensuite, il y a un autre moment d'aggravation du conflit qui est fin 1956... Et 1957, fin 1956, les militaires français kidnappent en plein vol un avion marocain qui contenait qui transportait les principaux chefs du FLN, et en fait ils les arrêtent en plein vol. Enfin, c'est un acte de piraterie aérienne que le gouvernement français va recouvrir de son autorité, et l'ONU ne fera rien. Mais on a déjà là le signe que pour gagner la guerre, la France est prête à un certain nombre d'illégalités, y compris au plan international. En 1957, c'est une radicalisation accentuée par les méthodes de répression. C'est ce qui se passe à Alger, c'est-à-dire une pratique systématique de la torture et de la très nombreuse disparition de gens dans la capitale de l'Algérie, qui devient un lieu de concentration de l'attention mondiale, puisque le FLN a organisé début fin janvier une grève pour montrer aux Nations Unies qui se réunissent à ce moment-là que le peuple algérien est derrière le FLN. Donc il y a un enjeu qui n'est pas du tout local, mais qui est international. Et donc on est déjà dans une internationalisation du conflit, et ça c'est un élément très important, puisque d'une certaine manière la guerre va être perdue par la France du fait de ce contexte international. C'est plus vraiment le temps des empires, et c'est plutôt le temps de l'émergence de tiers-monde, et tout ça, ça va beaucoup jouer. Alors s'il faut aller plus rapidement dans les scansions ensuite.
Moi je voudrais que l'on aborde maintenant la position du général de Gaulle.
Oui.
Et de son fameux « je vous ai compris ». S'agit-il dans le conflit d'un changement dans la continuité ou d'un double discours tenu
Alors, quand le général de Gaulle prononce son discours « Je vous ai compris » début juin 58, en fait, il vient d'être appelé au pouvoir par le président de la République, de la 4e République, parce qu'à Alger, il faut quand même revenir sur ça, parce qu'à Alger, le 13 mai 1958, des militaires alliés avec des civils ont décrété que la politique menée par la France ne leur convenait plus et qu'il fallait donc changer la politique. Et qu'en l'occurrence, il refusait le président du Conseil qui venait d'être nommé. Donc on est là, en fait, dans un putsch, dans une logique putschiste, disons, qui n'aboutit pas au sens où des militaires ne prennent pas le pouvoir, mais où des militaires arrivent à peser suffisamment lourd sur la politique française pour que le président de la République change son choix de président du Conseil. Et donc décide, au bout de quelques semaines de troubles, de faire appel au général de Gaulle. Alors, certes, c'est un militaire, mais on n'est pas dans une logique putschiste. Ce n'est pas lui qui est derrière le putsch, c'est pas lui qui est derrière les gens du 13 mai, même si certains de ses amis ont sans doute été là-bas. Bref. Donc, quand il arrive en Algérie en juin 58, on a commenté sans fin son « je vous ai compris ». Évidemment, c'est surtout une phrase qui était très, très malléable, qui pouvait parler à tout le monde. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une grande attente, une attente de changement de la part des Européens d'Algérie, de la part de l'armée d'Algérie, et un désir d'une politique qui assume sans doute des changements. C'est-à-dire que en tout cas du point de vue des militaires, ce qui est très net, c'est qu'on est en 58, ça fait 3 ans et demi que la guerre a lieu, la France s'enfonce dans la guerre, la guerre s'internationalise. En février 58, il y a un moment très important de ce point de vue-là. La guerre s'internationalise, c'est-à-dire qu'elle échappe à la France. Donc il s'agit de reprendre les choses en main et en même temps de montrer que la France accepte une forme de rupture avec l'héritage colonial. Donc il y a des formes de critiques, de discours critiques qui sont tenus sur ce que la France a fait jusqu'alors et qu'elle n'a pas fait. Et on attend de Gaulle aussi. Et en ce sens, on peut comprendre par là l'enthousiasme qu'il y a pu y avoir chez certains milieux algériens. On attend de Gaulle aussi une réforme, une capacité à réformer les structures de l'Algérie coloniale. Pas forcément à donner l'indépendance, mais au moins à entendre et à réformer. Donc il y a de multiples espoirs autour de Gaulle. Il y a aussi de multiples peurs. On a peur du retour du fascisme. La gauche se mobilise contre ce qui est considéré comme comme un général qui revient au pouvoir. Donc, il n'y a pas du tout d'unanimisme autour du retour de Gaulle, mais il y a quelque chose comme ça. Alors, double discours, pas double discours, voilà, je crois qu'on va continuer encore à travailler sur ces questions. Ce qui est très net, c'est que quand on voit les discours explicites de De Gaulle, et même quand on lit dans ses mémoires, hein, il y a une évolution de sa position, tout à fait nettement, entre juin 58 et septembre 59. Ce qui me paraît aussi un récurrent, c'est qu'il essaie toujours d'être en position de force, mais avec un terrain qui bouge. Donc sa notion de la position de force, elle évolue. En 58, dans un premier temps, il va globalement donner à l'armée beaucoup de pouvoir pour continuer ce qu'elle a fait en Algérie, d'une certaine manière, lui donnant un blanc-seing sur le mode « voilà, vous êtes compétent et continuez comme ça, et puis de toute façon, quoi que vous ferez, vous mettrez la France en position de force ». Alors, pas quoi que vous ferez, parce que si vous continuez trop d'illégalités, si vous continuez trop de violations des frontières tunisiennes et marocaines, ça va être plus compliqué à gérer. Donc, il y a un certain nombre de règles qui sont rappelées, y compris pour la question de la torture, on va peut-être y revenir, mais globalement, dans les faits, pour la question de la torture, ça continue tout comme avant. Il y a une tentative de dire que les règles existent, mais en même temps, l'essentiel, c'est que l'armée offre à De Gaulle des conditions de négociation en position de moindre faiblesse. Et de fait, quand le général De Gaulle fait son fameux discours, qui n'est pas celui du 4 juin 58, mais qui est celui du 16 septembre 59, où il envisage l'autodétermination comme une possibilité, bon, là, c'est le grand tournant et c'est la grande rupture, et il y arrive après un an et demi de terribles opérations militaires en Algérie qui ont mis vraiment à genoux les maquisards algériens et qui ont très largement offert à De Gaulle, en tout cas croit-il, la possibilité de négocier en position de force. Oui. En réalité, il se trompe et ça sera beaucoup plus compliqué que ça.
Justement, quand commence-t-on à négocier ? Que contiennent les accords d'Évian ? Et comme date de fin, doit-on retenir la signature des accords d'Évian ou plutôt le 1er juillet 1962 ?
Alors, on commence à négocier en fait en 1956. Il y a des négociations secrètes qui sont entamées sous Guy Mollet, mais qui n'aboutiront pas. On aurait peut-être pu sortir de la guerre début 1956 en réalité. Bon, bref, ça ne se fait pas. Finalement, les pouvoirs spéciaux sont votés. On est dans une logique de répression à outrance. Mais il faut se souvenir de ces tentatives qui ont été faites au début de la guerre. Sous De Gaulle, on commence à négocier tardivement, puisque le général De Gaulle a toujours refusé, et je dirais jusqu'à la fin sans doute, l'idée que le FLN était l'unique interlocuteur algérien. C'est-à-dire que le discours du FLN, c'est de dire « je suis le peuple algérien et j'incarne la nation algérienne ». Autant de choses qui sont purement performatives et qui ne sont pas du tout vraies sur le terrain. Même si, on l'a vu, bien sûr qu'il y a une influence grandissante du FLN. Mais il y a toujours eu des gens qui n'étaient pas d'accord avec le FLN, il y a toujours eu des gens tués par le FLN pour des accords, il y a toujours eu des gens qui se sont ralliés à l'armée française ou qui ont fait le choix de continuer dans la fonction publique française. Ou tout ça. Bref, le discours du FLN, c'est de dire « je suis l'unique », et le discours en face du général de Gaulle, ça a toujours été de dire « non, vous n'êtes pas l'unique, nous voulons négocier avec plusieurs interlocuteurs algériens ». Sauf qu'il n'y avait pas personne en face. Il y avait peut-être des gens qui n'étaient pas d'accord avec les FLN, mais pas pour incarner vraiment une troisième force. Ce que cherchait De Gaulle, c'était une troisième force. Donc ils ont pendant longtemps cherché cette troisième force, de plusieurs manières, politiquement, cherché un autre interlocuteur politique, et puis militairement, le général De Gaulle, en ancien résistant qu'il était, en ancien chef de guerre qu'il était, a tenté de jouer la carte « je m'adresse aux militaires ». Aux militaires algériens, vous n'êtes pas dévoyés dans la politique, vous n'êtes pas dévoyés dans le terrorisme, vous avez pris les armes pour défendre votre pays, l'île de votre pays. On peut s'entendre, de militaire à militaire. Donc ça, il a tenté ça à deux reprises, il a tenté ça octobre 58, dès le début. Il a retenté ça au printemps 60. Et c'est l'échec de cette négociation-là au printemps 60 qui précipite les premières négociations politiques. C'est-à-dire qu'au printemps 60, il tente en fait une paix séparée avec une partie des militaires algériens qui échoue. Et dans la foulée, donc l'échec c'est juin 60, début juin, mi-juin, et fin juin 60, il commence la négociation avec le FLN. Donc à ce moment-là, on est vraiment, vraiment dans la fin de la guerre, dans un tournant à plein d'égards et politiquement c'est très, très net. Des négociations s'engagent. Alors elles vont échouer. Il va falloir près de 2 ans pour que les négociations finales aboutissent. Il va falloir plusieurs ruptures de négociations, plusieurs reprises de négociations pour finalement aboutir à Évian le 18 mars 1962. Alors est-ce que c'est la fin de la guerre le 18 mars ou le 19 parce que c'est le feu ? Oui, bien sûr, c'est le feu, c'est la fin des opérations militaires. Donc c'est assurément quelque chose qui ressemble à une fin de guerre. Il n'y a pas de traité de paix entre la France et l'Algérie, donc on n'a pas l'équivalent d'un traité de Versailles ou de je ne sais quoi, mais on a un armistice, on a l'équivalent d'un 11 novembre, on a un cessez-le-feu. Donc on pourrait légitimement considérer que là il s'agit de quelque chose qui a été acté entre les deux puissances et qui a globalement été respecté. Enfin, qui a été respecté. Ce qui n'a pas eu lieu, c'est la paix en Algérie. C'est-à-dire que la violence a continué, elle a même explosé après le cessez-le-feu, mais ni du fait du FLN, ni du fait de l'armée française, mais parce que d'autres acteurs se sont mêlés à ce jeu. Et en particulier, l'organisation armée secrète, une organisation terroriste de radicaux qui voulait détruire l'Algérie et détruire surtout les négociations et les accords de paix. Donc l'OAS déchaîne sa violence au printemps 62, enlève des Algériens, tue des militaires français, donc et en représailles, des Algériens sont enlevés, des Européens surtout sont enlevés par des Algériens qui se prétendent du FLN, qui le sont peut-être, qui n'ont sans doute pas été des combattants de la première heure, mais des gens qui veulent racheter leur action pendant la guerre. Enfin, tout ça est très confus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de nombreux morts français à cette époque, et ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens refusent de considérer que le 19 mars, c'est la fin de la guerre, au nom de ces morts, qui sont bien des morts liés à la guerre, mais qui ne sont pas au sens strict des morts, qui sont dans la période qu'on peut quand même considérer comme étant la période ouverte par le 1er novembre 1954 et fermée par le 18 mars ou le 19 mars 1962. Après, d'un point de vue politique, c'est évident que l'indépendance de l'Algérie, c'est la fin de quelque chose. Alors ça serait le 2 juillet, ça serait le 3 juillet, parce qu'il y a les élections début juillet, puis après la proclamation de l'indépendance le 3, et puis la vraie proclamation de l'indépendance le 5. Donc le pays est indépendant depuis le 3, mais on proclame son indépendance le 5. Et là, les Algériens manipulent les dates aussi bien que les Français. Hein. Donc ils font ça le 5 juillet 62, en écho au 5 juillet 1830, qui était la signature... L'entrée hein, de l'Algérie, de ce qui était tout petit territoire autour d'Alger, dans le giron impérial français. Ce qui signifiait là aussi, c'est que la période qui se clôt le 5 juillet 62 n'est pas une période qui a commencé en 54, elle est une période qui a commencé en 1830. Donc cette histoire de date, elle est absolument cruciale dans la manière de définir les enjeux de ce qui se joue. Moi, je suis tentée de considérer qu'effectivement, la guerre s'arrête plutôt en juillet 62, parce que c'était le sens de cette guerre, c'était d'amener à l'indépendance du pays. C'était pas comme le 11 novembre 18, c'était pas battre l'armée adverse. Le sens de la guerre, c'était obtenir l'indépendance. En même temps, dans les accords d'Évian, il y a déjà l'indépendance. Et il y a une période de transition qui est prévue pour, en gros, faire la passation des pouvoirs. Donc, on peut plaider les deux, y compris quand on défend ma position qui est de dire que le sens de la guerre, c'est l'indépendance, et que donc c'est l'indépendance qui doit être le terme qu'on considère. Mais on peut considérer que dès Évian, on a le terme de l'indépendance. Donc voilà, ça dépend. Pour ce qui est des militaires français, par exemple, les anciens combattants, leur pension et leurs droits à la retraite du combattant, leur droit au statut d'ancien combattant, leur est reconnu s'ils ont été en Algérie jusqu'au 2 juillet 62. Donc il y a bien quelque chose qui considère que jusque-là, ils ont pris des risques, ils ont risqué leur vie, d'ailleurs c'est le cas, mais du fait de l'OAS plus que du fait du FLN, et donc ils méritent d'être considérés comme anciens combattants. Donc voilà.
Alors, après ce parcours rapide des grandes étapes du conflit, nous souhaiterions revenir avec vous sur quelques thèmes autour de cette guerre d'Algérie, des thèmes qui ont occupé le travail des historiens, à commencer par le vôtre. Puisque la violence, par exemple, est particulièrement omniprésente pendant toute cette guerre. Vous l'avez rappelé, des massacres, des exécutions, des attentats, la torture surtout. Alors justement, la torture, quelles en sont les premières traces? À partir de quand est-ce qu'on trouve les premières occurrences de la pratique de la torture? Pourquoi elle est pratiquée? Enfin, si on peut, est-ce que c'est parce que c'est efficace, ou alors est-ce que c'est par acte presque terroriste, en tout cas un terrorisme qui serait d'État? Et puis ensuite, nous parler un petit peu de votre travail par rapport à cette torture, comment est-ce qu'on enquête autour de tout ça.
Alors, quand est-ce que ça commence? C'est difficile à dire en réalité, parce que ce qu'il faut bien se rappeler, ce dont il faut bien se souvenir, c'est que la guerre qui commence en Algérie, c'est-à-dire... La violence terroriste qui secoue l'Algérie fin 54, elle intervient dans un terreau d'histoire coloniale et de société coloniale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une relation différenciée aux citoyens, parce qu'à cette époque-là, tout le monde est citoyen en Algérie, mais depuis 10 ans seulement. Une relation différenciée aux citoyens selon qu'ils sont considérés comme citoyens musulmans ou non. Autrement dit, algériens, indigènes ou non. une relation différenciée des forces de l'ordre et de l'État à ces gens, à ces citoyens. Donc il n'y a pas d'égalité devant la loi en Algérie, concrètement, dans la pratique. Donc quand on est arrêté par la police, par exemple, on doit s'attendre, on peut s'attendre à être violenté et avec une capacité à lutter et à faire appel de ces violences, pas du tout nulle, mais limitée. Donc il y a certainement des antécédents, il y a certainement des choses qui il y a certainement un terreau. Et quand les premières occurrences de la torture qu'on trouve pendant la guerre sont des occurrences de torture policière. Tortures policières qui ont lieu dès novembre 1954, puisque à la suite des attentats du 1er novembre, comme la police ignore totalement qui est le FLN, elle va aller arrêter des membres du MTLD. Donc le grand parti qui lui existe est officiel d'ailleurs et légal. Hein. Elle va arrêter des membres du MTLD pour essayer d'obtenir des informations, et elle en torture certains, et puis elle a la maladresse de torturer certains qui sont conseillers municipaux à Alger, donc forcément ça fait mauvais genre, ça se sait très vite, ça fait scandale. En même temps, c'est tout à fait révélateur de ce que la police estime être ses droits, et par ailleurs de son incompétence en termes de renseignement. Donc ça, c'est la première chose. On a une torture policière qui est dénoncée très vite en France. Mendès France, qui est chef du gouvernement, est alerté très vite. Mendès France, vraiment encore une fois, très vite. C'est-à-dire en janvier 1955, Mendès France prend des positions pour, en gros, mieux contrôler la police algérienne. Alors avec un effet qu'on a du mal à mesurer. On a du mal à mesurer Mendès étant démissionné début février. Mais sur la police, ça sort peut-être eu un effet. Mais surtout, ce qui se passe à partir de là, c'est que c'est l'armée qui va prendre la répression en main, et c'est l'armée qui va se mettre à pratiquer la torture. Alors, la torture va être pratiquée pendant la guerre d'Algérie de manière massive et de manière systématique. Quand je dis systématique, c'est pas du tout au sens à chaque fois. C'est au sens où la torture appartient à un système de répression. Ce système de répression accepte en son sein des armes qui ne sont pas légales. C'est le cas de la torture. C'est pas la seule. Typiquement, les disparitions. Disparitions, quand on a des services spéciaux qui font disparaître des gens, c'est pas légal non plus, mais ça fait partie du système de répression. Donc, ça fait partie de ce système. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a suffisamment d'arguments pour le justifier auprès des acteurs comme auprès de l'extérieur. Auprès des acteurs, l'argumentaire principal va être de leur dire la guerre en Algérie est une guerre d'une nature différente, c'est pas une guerre front contre front, c'est pas une guerre armée contre armée, c'est une guerre dans la population, c'est une guerre dans le peuple. Le FLN est un parti révolutionnaire, ils font comme tous les révolutionnaires du monde entier, ils noyautent la population, et donc c'est très difficile de savoir qui est qui, et donc on a besoin, encore plus que dans une guerre normale, de renseignements. Or, ces renseignements, nous ne les avons pas, donc il faut les obtenir. Donc, pour les obtenir, on a plusieurs moyens, mais un des moyens quand même privilégiés, parce qu'on n'en a pas beaucoup d'autres en réalité, parce qu'on a très peu d'informateurs, on en a, hein, la police a des informateurs, l'armée aussi, mais enfin bon, c'est la pratique de la torture. Donc, la justification, elle ne vient pas par la torture, elle vient par le renseignement. On va dire à tous les soldats d'Algérie, vous devez obtenir des renseignements. Vous, n'importe qui, vous êtes infirmier, vous êtes instituteur, vous êtes conducteur de camion, vous devez obtenir des renseignements. Donc c'est pas du tout une officine spécialisée, hein. C'est l'ensemble des soldats ont cette mission-là. Tout le monde doit être attentif aux détails, etc. Donc ça, c'est une ambiance, hein. On leur dit le renseignement. Et par ailleurs, on leur dit par tous les moyens. Et éventuellement, on leur dit, bon, mais quand même, il faut préserver les principes d'humanité français. Mais sans plus de précision. Donc, résultat, les acteurs au niveau le plus bas, là où ils se trouvent confrontés, aux gens qu'ils arrêtent, sont dans le flou le plus total sur ce qu'ils peuvent faire. Et ce que mon analyse montre, c'est que quand on regarde ce qu'ils font, on mesure leur marge de manœuvre. Leur marge de manœuvre est immense, en réalité. Donc, s'ils veulent refuser, en fait, on peut difficilement les contraindre. Parce que, de fait, les lois, les textes ne sont pas assez précis. Pas les lois, mais les textes, les textes réglementaires. En revanche, s'ils veulent torturer, ou si on leur donne l'ordre de torturer et qu'ils ne refusent pas, ils ne seront pas sanctionnés. Donc, en réalité, cette marge de manœuvre, ce flou, hein, sur le statut d'une violence qui est totalement illégale, et qui est en fait totalement tolérée, voire encouragée, elle préside aux destinées de la torture pendant la guerre d'Algérie. Et elle est encouragée parce qu'effectivement, il y a un argumentaire qui va se développer à partir de 1957 sur son efficacité. Et là, ça renforce l'argumentaire du renseignement, c'est-à-dire que non seulement il faut du renseignement, mais en plus, on a trouvé le bon moyen pour le renseignement, c'est la torture. Donc ça, ça va développer à partir de 1957, à partir des bombes qui ont éclaté à Alger à l'automne 56. L'armée qui a été mobilisée pour intervenir en ville à Alger, ce qui est très rare, une armée ça n'intervient pas en ville, une armée ça intervient en campagne contre une autre armée, ça ne fait pas la police en ville. Donc on fait faire à l'armée des choses qu'elle ne sait pas faire, qu'elle n'a pas l'habitude de faire et qu'elle n'aime pas faire. En plus, on la fait faire à des commandos, enfin à des commandos parachutistes, à des régiments d'élite, qui savent très bien faire la guerre, mais qui peuvent forcément très bien faire ce travail-là. Bref. Donc ils vont faire cette guerre en ville pour lutter contre cet attentat terroriste. En tout cas, c'est une de leurs missions. Ce n'est pas la mission principale, hein, mais c'est une de leurs missions. Et donc, de fait, ils vont réussir à limiter les attentats terroristes à Alger dans un premier temps. Printemps 57, il n'y a plus d'attentats terroristes. En juin, ça redémarre, de nouveau attentat terroriste. À l'été, réaccentuation de la répression. Et à l'automne, ils arrivent enfin à abattre le chef du FLN à Alger, enfin à l'arrêter. Et donc, ils vont à partir de là développer un argumentaire sur l'efficacité. Voilà, on a trouvé la solution. Et la solution, c'est autour de la torture, très très clairement, puisqu'on explique que mieux vaut torturer un coupable que de laisser tuer des innocents par une bombe, par un attentat aveugle. Et cet argumentaire, en gros, du moindre mal, c'est-à-dire qu'on ne rejette pas la torture comme un mal, on assume qu'elle est un mal, mais on dit que c'est un moindre mal, cet argumentaire du moindre mal va être extrêmement redoutable d'un point de vue moral pour les acteurs, extrêmement redoutable au sens quand on le juge d'un point de vue moral, en même temps être extrêmement efficace pour les acteurs, puisque de fait il va les convaincre de l'efficacité de la pratique. Alors, mon analyse, c'est de dire qu'il ne s'agit pas de ça en Algérie. C'est-à-dire que bien sûr qu'il s'agit d'une guerre révolutionnaire, bien sûr qu'il s'agit d'avoir des renseignements, mais il ne s'agit pas de ça. La meilleure preuve en est qu'on n'arrête absolument pas des terroristes qui viennent de poser des bombes, qu'on arrête bien souvent des gens qu'on suspecte, et c'est tout, et pas du tout des coupables, et qu'on arrête en particulier, et qu'on arrête de manière particulière, et qu'on arrête de manière spécifique, et qu'on torture de manière spécifique. Quand on regarde ça de près, on remarque quoi ? Que l'armée française fait savoir qu'elle torture. Les gens autour, dans les villages, dans les camps, savent que la torture a lieu. Et que cet élément est aussi important que le fait qu'elle torture. C'est-à-dire que c'est pas tant ce qui va se passer dans la salle de torture et les renseignements qu'elle va obtenir que le fait qu'on sait qu'elle a cette puissance-là. Elle a cette puissance de briser les résistances, elle a cette puissance de faire mal au corps, et elle a cette puissance d'ailleurs de relâcher après. L'armée française n'assassine pas, elle peut tuer sous la torture, mais c'est pas le but, elle n'assassine pas. Elle torture, et après elle relâche les gens, ou elle les emprisonne pour quelques temps, etc., avec laissant cette espèce de doute sur qu'est-ce qui a été dit sous la torture, qui a trahi qui, et cette espèce de poison qui va empoisonner la population, la vie algérienne, et qui va effectivement développer une contre-terreur d'État, c'est ce que vous avez dit, effectivement, là. Une partie de l'armée française développe un argumentaire sur la contre-terreur, qui est qui serait selon elle la seule arme efficace contre la terreur du FLN, c'est ce qui est assimilé à la terreur du FLN en face. En ce sens, elle est bien l'arme clé. Et pour moi, elle est l'arme clé de la guerre, puisqu'elle s'adresse, elle est une arme politique, elle s'adresse à la population, elle est un langage à la population.
Juste, voilà. Il nous reste pas beaucoup de temps.
Oui, je sais. Juste...
Non, non, mais...
Enfin, question sur les mémoires mêlées à celle de l'historiographie.
Oui, voilà, une question si ça vous irait, mais en 3 minutes...
Tout me va, bien sûr. Non, je suis désolée, j'aurais dû...
Mais non, non, mais vous rigolez, ça fait déjà... Vas-y, tiens.
Donc, depuis 1962, peut-on parler d'une guerre des mémoires qui aurait succédé à la guerre sur le terrain ? Et quels sont les grands débats historiographiques, tant français qu'algériens, autour de cette question ?
Alors, je crois qu'il y a deux choses différentes. La guerre des mémoires, ça ferait référence à des groupes porteurs de mémoire. J'aime pas tellement cette expression et me paraît un peu compliqué à répondre comme ça, mais je préférais répondre à votre question sur les grands débats historiographiques qui est quand même une autre nature, qui se situe plus d'un point de vue intellectuel. Est-ce qu'on a des débats historiographiques ? On en a peu, en fait, je crois. Il y a sans doute un des grands chantiers qui a été porté par les chercheurs, pas du tout que les historiens d'ailleurs, immédiatement après la guerre, c'est la question de la nature du FLN. C'est quoi ce mouvement qu'on a décrit comme totalitaire, communiste, socialiste, révolutionnaire, etc. Il y a eu beaucoup de réflexions sur ça. Il y a sans doute eu des débats entre des gens qui étaient en même temps des acteurs et des chercheurs. Hein. C'est une espèce de mixité des gens qui écrivaient dessus et qui donc débattaient pour des raisons à la fois intellectuelles, mais aussi du point de vue de leur propre expérience. Ça aurait été un des éléments, à savoir est-ce que le FLN finalement a trahi son message, est-ce que le FLN a été trahi par une partie de... Est-ce qu'il y avait un premier projet, puis il y avait des gens qui l'auraient trahi ensuite? Est-ce qu'il y a eu... Bon, voilà, donc toutes ces questions ont été pas mal creusées, si ce n'est débattues, mais creusées. Après, est-ce qu'il y a eu des débats historiographiques? Oui, il y a eu des empoignades sur le 17 octobre 61. Vraiment, voilà, c'est peut-être sur ce thème-là qu'on s'est le plus empoigné. Moi, je ne parle pas de débat historiographique parce qu'il me semble qu'on n'est pas à cette hauteur-là. En même temps, disons que les questions essentielles sur le 17 octobre ont porté sur la question du massacre à Paris d'Algériens par des policiers sous les ordres du préfet de police Maurice Papon, ont porté sur combien de morts. Donc à partir de là, on a pu discuter en historien de comment on compte des morts dans une répression d'État. Donc ça peut avoir un intérêt éventuellement pour les autres historiens, et que c'est difficile, et que c'est compliqué, et qu'on n'aura jamais un chiffre fixe. Voilà. Et là, on a pu débattre de la manière dont certains comptaient et dont d'autres comptaient. Bon. Petit débat historiographique, enfin important symboliquement, mais pas forcément... Il y avait de toute façon massacre. Voilà, il y avait de toute façon eu des morts, ça n'a jamais été remis en cause. La question de la responsabilité de Maurice Papon aussi a été évoquée, c'est-à-dire comment on établit la responsabilité d'un haut fonctionnaire quant aux actes commis sous ses ordres. Donc ça, Maurice Papon, c'est une question qu'il connaît bien. Mais c'est une question qu'on pouvait aussi poser sur l'armée en Algérie. Est-ce qu'on doit tenir le général de Gaulle pour responsable de la torture commis sous ses ordres, après tout? Donc, bon, c'est des questions, mais c'est pas des débats historiographiques. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas tellement de débats. On n'est pas un champ qui est très grand et pas très conflictuel. Alors, il y a des oppositions, peut-être idéologiques, entre les chercheurs, ou des positionnements dans le champ. Il y a des choix d'objets, évidemment. Mais ça reste très courtois et en même temps, pas tellement, comment dire ça, pas tellement stimulant, il n'y a pas tellement de débat où on avancerait ensemble vers quelque chose. Non, peut-être qu'on n'a pas atteint le nombre critique de gens suffisamment pour aller dans ce sens. On a des petits points, mais voilà, c'est à venir, j'espère.
Mais on va finir sur cette note d'invitation au travail. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci pour cet entretien. Alors, chers auditeurs, je vous remercie à vous aussi pour votre fidélité. L'équipe de 20 minutes vous propose cette semaine, en plus de cette émission, donc un carnet spécial à l'occasion, vous l'aurez compris, des 50 ans de la signature des accords d'Évian. Et puis ne manquez pas sur votre chère radio Transistor un nouveau numéro de votre émission sur les présidentielles et également une nouvelle émission de cuisine, Sans se prendre le chou, qui vous est proposée par Marie-Ève. Bonne semaine à vous tous.